chronique 1001 pages. Chaque semaine, on retrouve Frédéric pour ses conseils avisés de lecture. Et cette semaine, c'est de bande dessinée dont tu nous parles, Frédéric.
Oui, Nico. Le premier, l'adaptation en bande dessinée d'un déjà énorme succès de librairie intitulé Petit Pays et signé Gaël Faye, que je pense beaucoup d'auditrices et d'auditeurs connaissent déjà. Plus d'un million d'exemplaires vendus, rien que chez nous, en France. Prix du roman Fnac, prix Goncourt des lycéens, à l'occasion duquel j'ai pu fréquenter pendant un certain nombre de jours et dans différentes villes, puisque cela représente un périple, Gaël Faye, et voir à quel point, et ce n'est pas une légende, hein, vraiment, il était à l'écoute, à quel point il faisait attention aux personnes qui s'adressaient à lui de façon très humble et parfois un peu gênée, parce qu'il faut bien le dire, au milieu des autres écrivains, son accueil à lui était, j'allais dire, assez somptueux, parce que les lycéens avaient beaucoup aimé son livre déjà et avaient très très envie de le rencontrer, de par le fait qu'il était aussi chanteur, qu'il avait des albums, enfin bref, qu'il y avait tout ça derrière. En même temps, je dois dire que Jean-Louis Bocquet a eu l'excellente idée dans la collection Air Libre de confier cette adaptation à deux auteurs que j'aime beaucoup et qui sont, me semble-t-il, tout à fait adaptés à cette histoire-là. Elle s'appelle Marzena Sova et lui, Sylvain Savoya, scénariste et dessinateur, et ils sont les auteurs de la série Marzi, qui était d'une certaine façon déjà un regard porté par une enfant sur un contexte historique particulier. Vous vous souvenez de Marzi, c'était en Pologne dans les années 80-90 avec ce qui se produisait là-bas. Et bien là, de nouveau, avec cette histoire, je vous rappelle peut-être un tout petit peu, on est au Burundi, à Bujumbura, en 92. C'est un petit coin de paradis pour le fameux Gabriel, qui, sans être une autobiographie, est quand même très très inspiré de la vie de l'auteur. Il a une petite sœur, Anna. Et son père est français, sa mère est rwandaise. Ils sont très heureux là-bas. À un moment donné, le temps de l'innocence s'arrête, la joie disparaît pratiquement instantanément. De façon concomitante, ses parents décident de se séparer avec un divorce. Et aussi, juste de l'autre côté de la frontière, eh bien, affrontement que l'on connaît et ce que l'on commémore, le génocide des Tutsis, en ce mois d'avril, eh bien, arrive. C'est d'ailleurs un des moments les plus forts de l'album dessiné par Savoya, c'est de voir le retour de la maman du petit Gabriel, de le voir à travers ses yeux, remonter jusqu'à son visage, ce visage qui a vu ce qui se passait de l'autre côté, et on est littéralement bouleversé. Plus, il faudrait inventer un mot pour raconter ça encore plus. Il y a déjà eu un film adapté de ce roman, il y a déjà eu une pièce de théâtre, mais il faut bien reconnaître que la bande dessinée offre, me semble-t-il, quelque chose de très particulier, une liberté très particulière en jouant sur les lumières pour les retours en arrière qui peuvent permettre peut-être d'atténuer et de raconter ce qui est indicible. Il y a aussi un rythme qui est trouvé par la scénariste qui au début rend une nouvelle hein, à son dessinateur qui lui va redécouper. Mais malgré tout dans les propos, dans la façon de chanter, de parler, il y a peut-être ça aussi qui passe dans l'album. Et puis il y a aussi une grosse documentation photographique que Gaël Faye a fournie et a permis ainsi aux auteurs de s'approcher au plus près de cette histoire. Voilà. L'autre album se passe essentiellement en France, ça s'appelle Lettres mortes, c'est publié aux éditions du Terroir et c'est Tanguy et Christian L qui le signent. Là pour le coup, on n'a pas de téléphone portable. On n'est pas directement en Afrique tout de suite, mais la guerre d'Algérie va jouer un très très grand rôle. Sans en dire trop, on est avec une jeune fille, jeudi, qui a perdu la mémoire et qui, à suite de cet accident de voiture, décide, sur une suggestion de son médecin, de retourner dans son village natal, auprès de sa grand-mère avec qui elle a correspondu très 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 régulièrement depuis plus de 5 ans, alors qu'elle avait quitté le village. Malheureusement, sa grand-mère décède juste avant qu'elle ne revienne. Alors à ce moment-là, il faut bien dire que cette mort va précipiter jeudi dans un retour sur sa vie, sur tout ce qu'elle ignore à travers, et c'est le quatrième de couverture de la BD, c'est très bien fait, des lettres. Ce que peuvent représenter ces petits bouts de papier que l'on garde, que l'on perd, que l'on se voit distribuer ou pas. Un facteur va jouer un rôle très très important. Et puis aussi, évidemment, comme je vous le disais, l'amitié entre quatre garçons partis là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, donc en Afrique encore, se battent pour une guerre que pas beaucoup d'entre eux ne comprennent, bien évidemment aucun d'entre eux ne maîtrise, avec une amoureuse de l'autre côté de la Méditerranée, et ça va beaucoup beaucoup compliquer les choses. C'est assez bien fait, j'aime bien le trait fin, très stylé, choisi par le dessinateur, et on regarde cette histoire en gardant des petits souvenirs, sans doute d'une époque, mais aussi peut-être d'une certaine façon de vivre, de voir comment, sans toute cette technologie, on avait, là aussi, me semble-t-il, hein, c'est des choses très complexes, parfois, à dénouer, à essayer d'arranger. Lettre morte, c'est publié aux éditions du Terroir, et, je le rappelle, Le Petit Pays est, lui, publié dans la collection Air Libre, chez Dupuis. Voilà pour cette semaine, Nico.
Merci Frédéric. Prochaine chronique 1001 pages, la semaine prochaine sur Radio PFM 999. Une chronique à retrouver également en ligne, radiopfm.com.